Hey, oh, mes paroles valent cher. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les Guesnay m'appellent le chair. Les Fimbi 500, mais les deux sont corrects. Anyway, Sarcelle représentant, Sect Abdoulaye, évidemment. Bienvenue sur We Hustle. C'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors, Hugo, take a seat, non? Timissimafi, Tiletra Nisoto. Real niggas worldwide, finish it, let's get it!
We hustle, baby. The chairman. We hustle, baby. The chairman. We hustle, baby. The chairman.
De retour sur We Hustle. Et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir mon homeboy. Rappeur, producteur, homme de cœur, social activiste, philanthrope. L'homme que l'on nomme Black M.
Mon gars, ça va ou quoi, mon frérot?
Black,
tranquille.
Comment il va, le frérot?
Ça va, grâce à Dieu, tout va bien.
Mille merci.
J'ai vécu l'intro, là, je suis trop content. C'est trop bien.
Merci à toi d'avoir accepté l'invitation.
Merci à toi.
Frangin. On aime beaucoup le parcours, on aime beaucoup ce que tu fais.
Merci
et
beaucoup.
Forcément, nos chemins devaient se croiser. Mm-hmm. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas?
Bien sûr. Alors, moi, je suis Diallo de nom, Alpha de prénom. Je suis né le 27 décembre 1984 à Paris 14e. Je saute les étapes, mais les gens me connaissent sous le nom aujourd'hui de Black M en tant qu'artiste solo et en tant que membre de la section d'assaut, du groupe Section d'assaut. Voilà.
Très bien. On va retracer le parcours.
À grand plaisir.
La jeunesse à Paris. Déjà, tu viens d'où, toi, précisément?
J'ai un parcours un peu différent de pas mal de monde dans l'urbain. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi dans Paris-Centre, mais le centre. Il n'y a pas plus centre que moi. J'ai grandi dans le 7e arrondissement. OK, j'ai grandi dans le 7e arrondissement. Dans les quartiers très 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 chic de Paris. Je crois qu'il n'y a pas plus chic en réalité, plus bourgeois, pardon. Sauf que nous, on était dans les chambres de bonne. On a vécu dans les chambres de bonne en famille pendant un bon bout de temps. C'est-à-dire que mon père, il est arrivé en France dans les années 80, par là. C'est son patron qui l'a aidé à arriver jusqu'en France. C'était un peu l'homme à tout faire, ménage, cuisine, etc. Il travaillait pour un médecin, je crois, c'est ça, qui avait besoin de tâches ménagères à la maison. Et donc, il arrive dans le 7e arrondissement, exactement au 26 boulevard Raspail, dans le 7e arrondissement. Et il est dans une chambre de bonne au début. Après, il va chercher ma mère. Ma mère arrive dans cette chambre de bonne. Là, la vie se fait. Moi, je nais dans ce décor. Et voilà comment ma vie a débuté sur Terre, mm-hmm, dans le 7e arrondissement.
Magnifique. Et vous étiez combien au sein de cette famille?
Alors moi, j'avais une grande sœur, mais qui était en Guinée. Je suis d'origine guinéenne, qui nous a rejoint plus tard. J'ai une petite sœur qui m'a suivi et j'ai un petit frère qui est arrivé derrière, mais quand on a déménagé un peu plus tard dans le 7e arrondissement, quand ma mère elle a trouvé un travail de loge gardien dans un immeuble de bonne sœur un peu plus loin dans le 7e arrondissement. Donc on était quatre exactement.
Et comment ça se passait à l'école, puisque voilà, famille modeste, mais vous côtoyez des gens assez aisés. Très tôt, on peut trouver le monde très injuste.
Ouais, on aurait pu trouver le monde injuste, mais je parle pour ma part, mais en même temps, je parle au nom de tous mes frères et sœurs. c'est que je sais que personne n'a eu ce truc de « Ah, c'est injuste ». Parce que, au contraire, ça nous a boosté, ça nous a motivé. Ça veut dire que c'est des trucs tout bêtes. Hein. Tu sors de l'école, un tel et un tel, il a son goûter. Toi, t'as pas le tien. Tu peux vite, t'es petit, tu vois. Tu peux vite vriller dans ta tête, te dire « Mais ah, c'est un, la vie est injuste, comment ça ?» Tu rentres chez toi, tu rentres avec tes potes. Le gamin qui est avec toi, il monte deux étages, il rentre dans un 400 mètres carrés. Sans rajouter, tu vois, entre le salon et sa chambre, tu fais un footing, t'es essoufflé. Et nous, on monte au dernier étage et en fait, on est dans une chambre de bonne. C'est-à-dire qu'on en avait deux exactement. Il y avait le couloir, je me souviens exactement de comment c'était. Le couloir, les toilettes au bout, la première chambre de bonne qui faisait guise de cuisine, moi, ma grande sœur, et la deuxième chambre de bonne un peu plus loin, mes parents et ma petite sœur.
Et très tôt, ça a créé des carences, ça ?
Je pense que c'est l'éducation. Parce qu'en vrai, de vrai, malgré qu'on a été dans ces chambres de bonne pendant plusieurs années, mon père, il a toujours fait de sorte à ce qu'on ne manque de rien. Mm-hmm. Ça veut dire, je me rappelle, à l'époque de la Game Boy, où je rêvais de l'avoir, je l'ai eu. Mon père, il était prêt à faire un double travail juste pour offrir tout ce que ses enfants avaient besoin.
Ok.
J'ai plein d'autres exemples. Tu te rappelles des baskets qui s'allumaient là ?
Bien sûr.
Ça aussi, c'était une mode à un moment donné. Je rêvais de les avoir. Mon père, je les ai eus en fait. Tu vois. Il s'est battu en fait.
On salue le paternel. Salut, chaleureusement, c'est très bien. Et tout à l'heure, tu disais que tu étais d'origine guinéenne. Tu t'y rendais régulièrement toi, déjà étant très jeune ?
Ouais. Assez tôt. Mon père nous a emmenés très très tôt. J'y étais. Je crois tout bébé, j'ai pas de souvenir, hein, c'est ce que mes parents me racontent. Mais je sais qu'ils me racontent pas des bêtises parce que quand j'y vais aujourd'hui, bah déjà je parle la langue peul parfaitement, pas mieux que eux là-bas, hein, mais mais je la parle, je la comprends parfaitement aussi. Et ça, juste ça, c'est un cadeau de fou, je trouve. C'est vraiment un gros cadeau de la part des parents de pouvoir parler sa langue d'origine. Donc ouais, j'y allais assez souvent très tôt. Je connais les chemins là-bas, les odeurs. Je connais tout en fait là-bas.
Tu viens d'où en Guinée ?
Je viens de l'Abbé. Tu connais l'Abbé ?
Non, je connais pas.
C'est après Conakry. Et même, je te dis, je viens de l'Abbé, mais pour que les gens y situent, parce qu'on vient encore plus loin que de l'Abbé. C'est-à-dire que nous, pour se rendre au village à l'époque, parce qu'aujourd'hui les routes elles ont changé, on mettait 24 heures pour de la capitale. Au village de mes parents, de mes grands-parents.
C'est magnifique. Et au sein même du foyer, la musique, vous en écoutiez ?
Ben, on en écoutait. Mon père, il écoutait de la musique. Ma mère, elle écoutait aussi de la musique. Mais de mes souvenirs, ils en écoutaient jamais ensemble. Chacun dans leur coin. Mon père, je le voyais souvent en train de regarder les clips sur MTV. De tout, hein. C'est-à-dire du Jackson à Fugees, enfin les stars de l'époque, tu vois. Et ma mère, j'ai des souvenirs qu'elle écoutait beaucoup de son Quinfri, de son De Chez Nous, de son des pays voisins. J'ai des classiques en tête qu'elle a saignés, qui aujourd'hui sont mes sons préférés, mais c'est inconsciemment parce qu'elle les écoutait, donc inconsciemment, oh. C'est Olivier Ngoma.
Là, ça me dit rien comme ça.
Grosse mélodie.
Ok.
Bon, tout ça, c'est les sons des parents, en vrai. Et ouais, ça écoutait de la musique. Et les souvenirs que j'ai de ça, je me vois derrière mon daron qui regarde la télé dans cette chambre. Et je me vois bloqué sur des personnages de rap qui étaient des stars à l'époque.
Ah ouais ?
Ouais.
D'accord.
C'est eux qui m'ont inspiré, en fait. En vrai.
Donc, il y avait déjà cette ouverture d'esprit.
Ouais, il y avait cette ouverture d'esprit déjà à l'époque, ouais. Du côté de mes parents. Ils n'étaient pas... après, tu connais, c'était des Quinfri quand même.
Ouais.
Mais on était quand même dans le truc de tranquille.
C'était ouvert. Mais ouais, déjà, eux, ils sont arrivés quand ? Pendant les 30 Glorieuses ?
Ils sont arrivés...
parce que c'est important, ça.
Ils sont arrivés dans les années 80, je crois. 80, un tout petit peu plus tôt, peut-être.
D'accord.
Après, je n'étais pas né, donc je ne peux pas bien me situer. Même eux, tu leur demandes, ils sont perdus dans le temps.
Il n'y a pas de souci, mon frangin. Donc toi, j'ai vu ici et là que Michael Jackson t'avait bercé. Tu étais un grand fada. Ouais. Donc, forcément, tu as dû limiter. Je t'ai même vu sur un plateau TV où tu faisais le moonwalk. Tu faisais peut-être même mieux que lui.
Arrête.
Non, non. Je te taquine. Mais tout ça pour te dire que tu avais déjà cette fibre artistique, j'ai même envie de te dire.
Ouais.
Comment les parents ont pris la nouvelle quand tu leur as dit que tu allais commencer toi-même à t'exercer dans la musique, t'allais performer tout simplement?
En vrai, on m'a jamais clairement calculé. On n'a jamais porté attention à... Là, je parle de parents comme frères et sœurs, comme gens du quartier. Au début, on m'a jamais pris au sérieux. Je sais pas comment t'expliquer. On est dans le 7e arrondissement. On est maximum 2 blacks, 2 noirs. Je me rappelle, moi et un gars à moi qui s'appelle Tilly, un Congolais, big up à lui d'ailleurs. Et c'est pas la culture du hip-hop dans le 7e arrondissement. On est loin, je suis encore loin de rencontrer la section, tu vois. Donc, quand je commence, et en plus, quand je commence, j'écris même pas mes propres textes. Je vais piquer des textes de rappeurs connus du moment, et je vais dans le petit quartier là, du 7e arrondissement et je rappe ces textes-là en faisant comme si c'était moi, tu vois. Mais on me calcule pas. Les seules personnes qui m'ont calculé, ce sont des SDF à l'époque. Mmh. La seule personne d'ailleurs qui me calculait à cette époque-là, qui me disait « Continue, tu vas aller loin », c'est un SDF qui s'appelle Mokran, paix à son âme. Et il m'écoutait, en fait. Il m'écoutait rapper. Tu vois, dans un quartier, il y a tout. Hein, y a ceux qui jouent au basket, ceux qui jouent au foot, ceux qui font leurs affaires pour gagner de l'argent. Et moi, j'étais celui qui écrit mes textes. Et forcément, bah, il y a le gardien du square, il y a la maman avec son fils, il y a truc machin, et il y a le SDF. Mmh. Et moi, c'est le SDF qui m'écoutait.
Et t'avais quel âge à ce moment-là?
13-14.
D'accord.
Ouais, 13-14, mmh. Lunettes, ouais. Grosses lunettes. Ouais, 13-14, c'était 13-14 ans.
D'accord. Et bon, tu piquais les textes hein, des artistes connus, mais t'écrivais parallèlement?
Par la suite. Quand j'ai commencé à voir que... En fait, j'étais un personnage assez bizarre parce que j'étais réservé de par l'éducation de mes parents, de par l'éducation des Peuls. Les Peuls, c'est des gens très réservés. Mais en même temps, je voulais montrer au monde que je suis capable de faire des choses. Je ne savais pas quoi. Donc, quand tu me parles de Michael Jackson, je me dis « je vais me lancer dans la danse ». Mais finalement, c'est pas trop ça. Ouais. Je regarde les gens qui passent à la télé, les stars du moment. Tu as du Fugees, tu as du Busta Rhymes, tu as du Eminem, tu as toute cette vague-là. Là. Et c'est à ce moment-là que je commence, et même en France, parce que je cite les Américains, mais cette époque-là, moi, j'étais bousillé à la Funky Family. Ouais, les grands de mon quartier, ils étaient très Marseille. Donc du coup, moi, j'ai été très bercé au rap marseillais. Mm-hmm. Funky Family, IAM, Troisième Oeil. En fait, moi, les Marseillais, je connais par cœur le rap marseillais de l'époque. Et les Parisiens, on était dans de la Secret Connection, dans du NTM, Time Bomb, etc. Mais par contre, quand j'écoutais les textes, je me reconnaissais pas forcément, dû au fait que moi, j'ai pas grandi en cité, tu vois. Donc, j'avais quelques codes, mais pas tous. Et c'est quand j'écoute du rap purement parisien, et c'est surtout quand je rencontre l'équipe section après, que là, je trouve plein de points communs avec ma vie. Parce qu'eux aussi sont de Paris, mais d'un quartier un peu plus éloigné.
Je comprends totalement, frère. Et les études dans tout ça, parce que c'est un paramètre qu'on n'occulte pas ici, c'était quoi le CV?
Le CV, tu connais Madame Pavoshko, le morceau?
Ouais.
À la fin du morceau, je dis, j'ai pas eu mon bac, j'ai pas eu mon brevet, j'ai pas eu... Enfin, je tire un peu sur le système scolaire, mais c'est très second degré parce que, en vrai, de vrai, j'étais pas très études. mais j'ai certains professeurs qui m'ont fait aimer des matières, comme l'histoire, comme les mathématiques, comme le français. Bah, le français, en vrai, j'en avais besoin pour mon écriture. Et voilà, j'ai kiffé certaines matières, mais j'étais pas très école. À l'école, j'étais au fond de la classe. J'étais la ref de JR au chrome dans Qu'est-ce qui est à l'envers, le perturbateur du fond de la classe. D'accord. Mais pas le perturbateur qu'on n'aime pas. Tu sais, c'est un peu le cancre qui fait rire tout le monde, dont les professeurs. Mm-hmm. C'était un peu ça. Un peu, ouais.
D'accord, bon, t'as trouvé ta voie par la suite.
Exact.
On retiendra que ça. Et voilà, t'as commencé à rapper dans ton quartier. Les gens, tu disais que ne croyaient pas en toi, mais ça peut faire aussi office de carburant.
Ouais, c'était mon carburant. Total.
Ok.
C'était mon carburant parce que, en fait, je saute un peu des étapes, mais il y a eu un moment où je suis rentré en internat. Dans le 91 à Montlhéry, exactement. Et là, c'est un autre monde. C'est un autre monde parce que je suis plus à Paris. Et l'internat, tu passes toute la semaine là-bas. Et en vrai, t'es dans un système de quartier, en vrai. Parce que c'est tous les gens de partout qui se retrouvent dans l'internat. Et c'est un peu une colonie de vacances. Donc, je découvre clairement... La vie autrement, ça veut dire que les premières bêtises, toutes les conneries d'un jeune adolescent, c'est là-bas que je les ai apprises. Et là-bas, il y avait des rappeurs et je me souviens d'un jour d'une fête de fin d'année où il y a un des rappeurs qui s'appelle Steven, je crois, il habitait aux Pyramides dans le 91, je remonte loin là. Mm-hmm. Et il s'est mis à rapper devant tout le monde. Et quand il rappe, eh ben, il arrive à captiver l'attention des mecs et des meufs. Tout le monde le guette. Et quand je vois tout le monde le guette, je dis, c'est ça que je veux faire. C'est ça, hein, tout le monde l'écoute là. Moi aussi, je veux faire la même chose. Mm-hmm. Et c'est ça qui m'a vraiment donné... C'est lui qui m'a donné envie de gratter. Il ne le sait même pas. Mais c'est lui qui m'a donné envie de gratter, persister. Et au début, je lui piquais ses textes à lui, je retournais là-bas, je rappais ses textes de l'autre côté.
Okay.
Et petit à petit, à force d'être dans le truc, tu trouves un peu ce que t'aimes. Et moi, j'aimais beaucoup les flows. J'étais plus dans le flow que l'écriture, par exemple, tu vois. J'aimais bien arriver et montrer l'exercice de savoir manier les mots avec du flow.
C'est magnifique. Donc, du coup, tu es allé sur Paris avec les textes de ce fameux Steven. Tu commençais à te créer une petite réputation, etc. Mais toi, là, dans ton coin, tu rappais déjà avec des gens? Il y a des gens qui s'exerçaient avec toi ou pas?
Ouais, des potes d'enfance.
Ouais.
Mais qui se prenaient pas au sérieux. Je les engrainais, en fait. J'étais tellement à fond dans la musique que ça a déteint un peu sur eux. Mmh. Des vrais potes d'enfance. Hein. Je te parle de mecs avec qui j'ai dû souffler ma deuxième bougie, qui aujourd'hui c'est encore méga.
Ok, bien.
Ouais. Mais ils m'ont pas suivi dans le truc. J'étais bien trop passionné par l'art du rap et de la musique tout court pour qu'on me suive. Fallait que je rencontre des mecs comme Section.
Ouais. Tu vois? Et c'est pas trop dur de garder la flamme intacte quand tu commences avec des homeboys et puis juste après, ils te suivent pas?
Non, c'est pas forcément dur. Parce que, tu sais, le truc de passion, la passion, ça te prend au cœur, en fait. Et quand ça te prend au cœur, tu peux être tout seul, tu vas faire, en fait. Après, s'il y a des gens qui te ressemblent et qui te rejoignent dans le bateau, c'est tant mieux. Mais si t'es tout seul et que tu kiffes ce que tu fais... La seule manière d'y arriver, c'est de persister dans le truc.
Mmh, très tu bien. Vois? Donc, moi, je vais accélérer un petit peu dans le temps. La rencontre avec la section, comment elle s'est déroulée? Parce que visiblement, si mes souvenirs sont bons, et là, je fais appel à ma mémoire, c'est Adama et Maska que tu as rencontrés en premier.
Les premiers que j'ai rencontrés, ils étaient tellement nombreux.
Ok.
Mais... Les gens avec qui j'ai eu de la communication pour la première fois, c'est Adama et Maska. Mmh. C'est Adama et Maska. Moi, j'étais dans un lycée dans le 15e arrondissement à Beaugrenelle, et très exactement. Et dans ce lycée, j'étais en BEP compta. Et j'avais un frère qui était amateur de rap, qui s'appelle Mathieu. On le prénommait 972, c'est un Antillais. Et en fait, il me voyait tout le temps rapper. Écrire au fond de la classe, rapper à la récréation, rapper à l'heure de déjeuner, rapper. J'écrivais, je rappais. Il m'a dit, écoute, dans mon quartier, il y a des mecs, il faut que je te les présente à tout prix. Tu vas voir, vous avez à peu près le même délire et en plus, il y a un dialogue comme toi. Je lui dis, fais écouter. Il me fait écouter deux titres, deux sections. Dessus, il y a Gims, Adama, Maska et d'autres têtes qui sont plus dans la section d'ailleurs. Et ma première écoute, j'aime pas. Je dis, en fait, ma réaction, c'est ça me parle pas. Je sais plus pourquoi, mais ça m'avait pas parlé. Mais j'ai pas été têtu sur le fait que j'aimerais bien les rencontrer. Et du coup, à force de traîner avec ce frérot Mathieu, un beau jour, il m'amène dans le 9e arrondissement parce qu'ils vivent là-bas. Et la première fois que je les vois, j'ai une image de ouf parce que je vois un groupe en train de marcher. Il y a Lefa devant, il a un cahier de texte, il y a Adama devant. Et c'est vraiment un groupe, ça marche en groupe. Et tout au fond, il y a Gims qui chantonne tout seul. et c'est ma première image que j'ai d'eux. Je dis, oh, paro les mecs et tout, ils sont dans la musique, ils sont à fond. Et Adama, il me dit, c'est toi Diallo et tout. Je dis, tu connais, moi, il est vif. C'est toi Diallo. Je dis, ouais, c'est moi et tout. Il dit, bon, vas-y, demain, on a une session, viens au studio demain, tac, 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 boum, boum. Hop, il continue à avancer. Je regarde mon gars, je dis, ah, c'est comme ça ici. Il me dit, bah, vas-y, viens, on va au studio demain et tout. Le lendemain, on va au studio. C'était dans le 92 à Châtenay-Malabry. T'as les souvenirs et j'arrive à les avoir. C'est dingue. Et ils sont tous en session. Et ils sont tous là. Je crois ce jour-là, il manque Gims. Il devait arriver un peu plus tard. Quand je te dis ils sont tous là, c'est il y a du monde, énormément dans les studios. Et Maska et Adama, ils m'appellent dans un couloir et ils me demandent de rapper. Mais moi, c'est la première fois, on me demande de rapper réellement. Je rappais dans mon coin, mais on m'a jamais dit « rap ». Donc, je regarde mon gars et je les regarde et mon gars, il me dit « rap », tu vois. Et je sors un texte de mon cahier de texte. À l'époque, on n'écrivait pas dans les portables. Je rappe, je crois, j'ai rappé 8 phrases, 8 mesures. À l'époque, on disait 8 mesures, même aujourd'hui encore. Et au bout de 8 mesures, je vois Adama, il jette son cahier. « Ah !» Il est trop fort, Maska aussi, pareil, ça me check, tout machin. Ça dit, tu fais partie de la section d'assaut.
D'accord.
Et j'ai pas eu le choix en fait.
Sans demander l'avis aux autres.
Ils m'ont rien demandé. En fait, eux, ils étaient à la recherche des. Leur but, c'était de réunir les meilleurs rappeurs de Paris.
Ok.
Peu importe le quartier, que ça soit du premier arrondissement au 20e, ils voulaient tous les meilleurs rappeurs de Paris. Et ils voulaient que ce soit des gens considérés comme la section d'assaut. Donc, il y avait des gens de partout. Et même de la banlieue parisienne, même parfois, tu vois. Mais moi, j'ai très, très vite intégré le collectif. Parce qu'au début, c'était un collectif. Et j'ai intégré ce collectif en tant que rappeur solo. Voilà.
D'accord.
Ouais.
Ah, Black, on rentre dans le dur. C'est bien, j'adore ça. Et c'était quoi la nature de votre relation avec les frères de la section? Dès le début, je ne vais pas parler de business parce que encore, si j'ai l'impression que c'était récréatif. Et là, tu retrouvais des frères qui avaient la même passion que toi. Mais toi, quand tu les as rejoints, tu étais déjà très focus. Tu t'es dit que les sentiments, c'est de côté. Là, je vais pour trouver ma voie.
Non, parce que comme je t'ai dit, j'étais à la recherche de personnes qui me ressemblent dans ce que je fais. À savoir être un rappeur parisien, mais qui a grandi dans un quartier riche, en réalité.
Ouais.
Tu vois? Et eux, bah, dès le début, ils se sont pas mis, ils sont pas rentrés dans un truc où ils se sont donné une image qui n'est pas la leur. C'est-à-dire qu'ils ont assumé aussi dès le début le fait que eux, c'est des rappeurs, parisiens, mais des ghettos chics. Ils appelaient leur quartier les ghettos, 9e zone, les ghettos chics. Tu vois? C'est Gims qui disait ça. Et bon, après, dans le 9e, c'était autre chose parce que C'était différent du 7e parce que le 9e, ça touche Pigalle, ça touche Place de Clichy. Ça, on est en... Il y a du quartier vers là-bas. Et donc, non, moi, j'ai pas ressenti de... En fait, pour te dire la vérité, hein, à l'époque, j'étais très perché. C'est-à-dire que j'étais dans ma bulle entre la musique, le pilon.
Okay.
Et ouais, j'étais très, très perché en réalité.
T'es un gros consommateur ?
Ouais. J'étais chez Père. Et du coup, bah, t'as pas le temps de penser à quelconque business à ce moment-là. Tu vois juste des mecs qui te ressemblent et t'as envie de tout partager avec eux. C'était ça. J'avais envie de tout partager avec eux.
Mais même si moi, je te rejoins là-dessus et merci pour cette transparence, frérot. Mais tu vois, là, tu rejoins un collectif où il y a des frères qui se connaissent déjà. Tu vois, Maska et Barak, c'est des amis depuis leur plus tendre enfance. Mm-hmm. Gims, ils se sont connus relativement tôt. Pareil pour Lefa, etc. Toi, t'arrives te joindre à la bande. Forcément, ça, enfin, c'est pas systématique, mais ça peut faire grincer des dents aussi.
Bah.
Tu vois, toi qui avais une âme de leader pour avoir lu des interviews ici et là, là, est-ce que t'es arrivé par la petite porte?
En fait, ils m'ont trop bien accueilli. Je peux pas te mentir sur ça. En fait, je me suis senti dès le début dans une famille dans toute son intégrité. Il n'y a pas un seul mec qui m'a fait des phases bizarres. Magnifique. Ils étaient dans la compétition, hein, pourtant. C'était la compétition de qui lâche le meilleur texte, qui machin, nanana. Mais sinon, c'était très sain. Mm-hmm. C'était très sain. Et quand ça finissait le côté rap, bah, ça invitait à manger, ça partageait des grecs à je sais pas combien. On allait se retrouver chez Barak ou chez Maska. On était vraiment, vraiment ensemble.
C'est magnifique. Et tu sais, même moi, on a reçu Ouara, hein, tu sais très bien que je salue chaleureusement, c'est le frère. Et tu sais, comme je le dis à chaque fois, en tout cas après, ça n'engage que moi, mais c'était le numéro 10 chez vous.
Bien sûr.
Parce que le frère, c'était une locomotive.
Bien sûr.
Mais toi, encore une fois, même si tu disais que tu étais un peu perché, tu étais dans tes trucs, tu étais ravi de rejoindre la bande, mais tu étais un petit peu ailleurs, pour rester poli.
Un peu.
Ça n'a pas un peu fait mal à ton ego de te dire qu'il y a un frère qui prend peut-être plus de place que toi, plus de lumière?
C'est une très bonne question. Ben, en fait, regarde. Déjà, pour ceux qui me connaissent vraiment bien, j'ai trouvé tellement un confort incroyable à intégrer un groupe où j'ai juste à venir lâcher un petit texte.
Okay.
Tu vois, juste à lâcher un petit texte et ça fait mon personnage. Parce qu'il faut savoir que moi, à l'époque, j'étais pas dans le groupe Section d'Assaut. C'était pas un groupe, c'était un collectif. Donc, il y avait troisième prototype. Gims, Maska, JR, Lefa, j'ai oublié quelqu'un, Barak. Si je me trompe pas, et les entités solo. Et moi, je faisais partie d'une entité solo. Si tu regardes le premier projet de la section, je dis pas de bêtises, c'est pas le premier ou c'est le deuxième. En tout cas, entre les chroniques et les chroniques du 75 et la Terre du Milieu et le Renouveau, eh ben, je suis en featuring. Il y a marqué Section d'Assaut fit, non, troisième prototype fit Black M.
Ok.
Donc moi j'étais un peu celui qui venait en tant que joker. Et à l'époque quand je venais déjà, ça disait à Gim c'était un concurrent, tu vois. Ça disait Gim c'était un concurrent parce que moi j'étais dans les trucs de flow, de machin. J'étais vraiment Trixma dans les flows. Et ce truc là il a toujours été sain. Et pour te dire moi j'ai jamais ressenti le truc du frère qui prend de la place à un point où, comment t'expliquer, c'est un truc que j'ai jamais dit ça, mais Gims il sait. Un beau jour je suis sur Montparnasse, je crois que je sortais des cours ou je ne sais plus, et j'avais mon Discman, et c'est à une époque où on faisait pas mal de maquettes en dehors de l'école avec toute la section, donc on était dans nos rêves de on a envie de tout plier dans la musique. Et je tombe sur Kerry James en plein Montparnasse. Et j'ai pour seul objectif à ce moment-là, c'est de lui faire écouter ce que j'ai de plus fort en termes de Section d'Assaut. Et pour répondre à la question que tu m'as posée, si ça, c'était dérangeant d'avoir un Gims qui prend de la place, bah pour répondre à ta question, ce jour-là, au lieu de lui faire écouter du Black M à Kerry James, je suis parti lui faire écouter du Gims. Tu vois? En mode, écoute ce mec, il est trop fort, il va tout dans quelques années, tu vas voir, machin, nanana. Bon, il avait pas trop mon temps. Mais...
on était en quelle année, ça? C'était
je sais pas, on était en... On était en... Ah, je pourrais... C'était entre 2006 et 2008. D'accord. Il n'avait pas trop mon temps, mais il a été cordial et gentil quand même. Hein. Et en plus, il a bien écouté. Hein. Il a bien écouté. Il a dit, oh, c'est pas mal et tout. C'est pas trop mon délire, mais force. Après, il est parti. Et j'ai appelé direct Barack. Je lui ai dit, hey, j'ai vu Kerry James. Je lui ai fait écouter du Muggy, machin. Bref, une anecdote pour te dire que j'ai pas le truc de... qu'on pourrait croire où Muggy prend beaucoup de place parce que c'est Muggy, les refrains, les nanani, tu vois, il était bien devant. Moi, j'ai jamais eu de problème à ce qu'il soit devant. Mm-hmm. Je suis un fan de base. Bien. De base. Ils le savent de toute façon. Je suis fan de chaque membre de la section. Ils le savent très bien.
C'est bien parce que tu arrives Nia dans ce moule et c'est bien de rendre les props parce que tu sais, malheureusement, parfois quand tu fais partie d'un game, quand tu fais partie de cette... grosse industrie, on aime bien opposer des profils.
Bien sûr.
Et toi, venir terre à terre en disant que t'es fan et que c'est que ton frère.
Exactement.
It's all good, mon Renoir, c'est deep. On adore ça. Et tu sais, il y a Barack qui me disait un truc et que je salue au passage. Il me disait qu'entre vous, les membres de la section, parfois il y avait du grabuge, parfois les membres n'étaient pas contents, mais il y avait le dîme qui vous rassemblait à chaque fois.
Exactement. Et c'est une grosse période de ma vie parce qu'à cette période-là, tu t'imagines bien que quand t'as grandi dans le 7e arrondissement, il n'y a pas de frère qui te parle de Dean. Moi, les premières personnes qui... Mes parents, c'est des musulmans. Hein. Je suis musulman aussi. C'est-à-dire que je les voyais prier, je les voyais me parler de religion, mes parents, mais ça ne va pas plus loin. Le jour où j'ai vraiment les deux pieds dans la section d'assaut, et que je vois qu'ils sont tiraillés entre la musique et le din, bah c'est là que je comprends certaines choses. Et c'est vrai que le côté din, même s'il y avait du grabuge parfois à côté, dans la musique, des désaccords, et ben en termes de din, ça nous rassemblait direct. Moi, directement, il y avait vraiment aucun souci à ce niveau-là. Et c'était beau d'ailleurs de voir le... C'était beau, mais c'était en même temps fou, parce que c'était un contraste de ouf. Mm-hmm. Tu sais, entre le moment où t'es en mode les frères, machin, nan, nan, mais de l'autre côté, t'es en mode comment ça, toi, t'as posé là, toi, machin. Tu sais, c'est des trucs de.
Je comprends totalement. Et toi, justement, là, tu intègres cette famille, j'ai même envie de te dire, hein, où il y a des valeurs, il y a des codes. Là, on est en train de parler du dîner, etc. Est-ce que toi-même, c'est des facteurs qui t'ont permis de te développer en tant qu'homme. Tu vois, parce que tout à l'heure, tu disais que tu étais dans le pilon, tu étais un peu festif, etc.
Ouais.
Là, de l'autre côté, est-ce que ça t'a pas cadré?
Non. Je te dis. Non, ça m'a pas forcément cadré. Parce que, c'est vrai que la période section, en fait, il y a la période où on essaye de percer et la période où on perce. Et à partir du moment où tu perces, tu ne te rends compte de rien. Ça va trop vite. Donc, tu n'as pas le temps de te cadrer. Moi, là, si tu parles de cadrage, ce qui m'a cadré, c'est quelques années plus tard quand je rencontre ma femme. Et encore, même là, je n'étais pas encore cadré. C'est quand mon fils il naît, c'est ce jour-là que je suis cadré.
Et forcément, on va parler de ta reine. Mais tu sais, la section... gros phénomène. On va y venir. Forcément, ce sera le fil rouge de notre conversation. Mais moi, tu sais, il y a une époque où je t'avais vu performer. Je dis « tu », mais en vérité, c'est vous. Je vous avais vu performer à Sarcelles. Oui, tu te souviens? Fais appel à ta mémoire. Vous avez performé à Sarcelles.
Sous un chapiteau.
Absolument. 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 Et je vais te dire la vérité. Dans l'applaudimètre, tu avais remporté la mise auprès de la gente féminine. Tu vois, on doit se dire les choses. Et c'était pour dire que tu étais déjà très charismatique. Je sais pas, le personnage de Black M était peut-être déjà défini et certaines personnes visiblement l'avaient remarqué. Tu sais, je vais faire l'analogie avec le football, mais il y a des entraîneurs qui disent aux plus jeunes, les gars, 20 ans là, allez vous marier. Parce que sinon, vous serez tiraillé, vous serez plus concentré sur le foot. Et toi, j'ai l'impression que c'était le même cas de figure. Parce que ta femme, tu l'as rencontrée relativement tôt, en tout cas dans le gros succès de la section.
Assez tôt, ouais. Mais je suis assez tôt, mais en même temps, je suis l'un des derniers à m'être marié dans la section d'assaut, dans ceux qui tiennent vraiment la section. Les autres, ils avaient déjà des femmes et des enfants très tôt. Hein. Et pour répondre un peu à l'applaudimètre de Sarcelles, bah c'est comme je te disais hors caméra, Sarcelles, tu ne le sais pas, mais les gens me connaissaient là-bas déjà, tu vois, parce que moi j'ai un peu grandi là-bas, entre guillemets, tu vois.
Cité Rose.
Voilà, bon, t'as capté.
Bon, bah c'est très bien. Et il y a l'Américain The Dream qui disait, le chanteur américain, il disait que lui, il pouvait pas se mettre en couple avec une femme qui était méconnue parce que il y en a qui sont vénales. Il est sorti une anecdote où il sortait avec une fille lambda, il l'a emmenée dans une soirée mondaine et elle allait courir derrière tous les artistes. Elle se comportait comme une groupée avec tout le monde. Toi, tu commençais à gagner en notoriété. Est-ce que c'est pas des paramètres qui t'ont trotté parce que l'image, elle est déjà biaisée?
Ouais.
Tu comprends? Et il y a toujours cette ambivalence, cette difficulté-là où quand tu es un personnage public, tu ne sais pas si l'intention de ta moitié sont les bonnes.
Mais encore une fois, je vais te répéter un truc que je t'ai répété plusieurs fois depuis le début de cette interview.
Bien sûr.
C'est que je suis un grand rêveur. Et dans mon bail d'être un grand rêveur, avec tout ce qui est pilon, quartier, tout ça, je suis perché pour de vrai. Donc, quand je la rencontre au premier clip de la section d'assaut, au premier gros clip de section, qui est Wati Bonson, où je faisais le refrain d'ailleurs, pour moi, tout s'est fait au feeling. Et surtout, j'avais aucune arrière-pensée dans la tête quand je l'ai rencontrée. Et elle aussi me montrait qu'elle avait aucune arrière-pensée dans la tête. Mais ce que je veux dire par là, c'est que s'il y avait eu du vice, je l'aurais même pas vu parce que j'étais chez père.
Ok.
Tu vois, Dieu merci, il y a aucun vice. 14 ans plus tard, on est encore ensemble, Dieu on a merci. Deux enfants. Tout.
Dieu merci. Je suis obligé de te lancer sur tout, mon frère. T'étais en mode Dave Dillinger, Doc Pound, t'étais dans ta fumée. Mais tu sais, je vais te dire un truc, c'est que là, tout à l'heure, tu disais que tous les frères de la section étaient casés. Parfois, il y en avait même qui étaient déjà papa à l'époque, bien etc. Sûr. Excuse-moi, je vais encore faire du name dropping. Je vais te parler de cette fois-ci Dave Dillinger, des Dog Pound, justement, qui disait qu'à l'époque de Death Row, les femmes, elles ont tout tué.
Elles ont tué le business.
Elles ont tué le business et elles ont tué la relation entre frères. Parce qu'il y avait Michele, qui était l'ex de Dre et qui était un petit peu avec Tupac. Tu vois ce que je veux dire? D'après ses yeux, hein, je relate juste ses propos. Le fait d'arriver Nia avec des frères dès le départ et qu'au final, il y ait des pièces rapportées. Et là, quand je dis pièces rapportées, c'est vraiment pas péjoratif. Hein. Attention. Mais est-ce que ça peut pas sceller le début de la fin? Tu me suis?
Je vois très bien ce que tu veux dire. Ça aurait pu être le cas chez Section, mais déjà j'ai envie de dire c'est la vie, parce que quand tu te cases, tu vas pas dormir le soir avec ton pote, tu vas dormir avec ta femme, frère, donc c'est forcément elle a le dernier mot, ok? Mais chez nous, c'était très cadré, c'est-à-dire que on a cette chance d'avoir eu ce côté Dean qui fait que naturellement c'était cadré. Il n'y avait pas de débordement. En fait, on ne laissait pas, c'est un peu chum de dire ça, mais on ne laissait pas place à faire rentrer la femme d'un tel ou un tel dans le collectif. Quand on était en section, c'était section. Il n'y a personne qui pouvait rentrer dans le truc.
Absolument, mon Renoir. Je comprends totalement.
Ouais,
merci
ça.
Pour cette précision et cette franchise, frère. T'es parfait.
On est ensemble.
Et tu sais, on va aller de gauche à droite ici. On a tout le temps. Là, je te parle de section, mais on a l'impression qu'il ne s'est rien passé. Vous étiez un phénomène. Un phénomène. Et tout à l'heure, tu me le disais, que votre vie allait à 100 à l'heure.
Total. C'était du 100 à l'heure. C'était comme je t'ai dit, du jour au lendemain. Moi, je me rappelle de mon premier selfie. Okay. Mon premier selfie, j'étais choqué. Et je me rappelle... En fait, moi, je bloque sur des scènes de vie où c'est des scènes qui ne bougent pas. Et cette scène-là, je l'ai en tête. On est dans un concert, je crois, à Valenton, dans le 94. On vient de faire la première partie d'Intouchable, je crois. Je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et à la fin du concert, je me retrouve avec Dawala et Gims derrière dans les loges. Et il y a une petite meuf, une petite blonde, qui vient, qui nous demande une photo à moi et Gims. On bloque. On sait pas ce que c'est, tu vois. D'accord. Photo. Pour moi, tu peux pas me demander une photo. Je suis personne, tu vois. Et Dawala, il dit prends ta photo, imbécile. On était tout petits, hein. Et on prend la photo et j'ai ce souvenir que c'est mon premier selfie. J'ai à côté de Gims et Dawa.
D'accord. Et je te disais, voilà, la section, c'était un raz-de-marée. C'était un phénomène, honnêtement. Moi, je veux savoir, tout à l'heure, tu disais que ta vie, elle allait à 100 à l'heure, mais le changement se traduisait par quoi? Tu sais, Dadju, lui, que je salue chaleureusement également, qui nous disait que lui, en fait, il a su qu'il était devenu une star quand tous ses faits et gestes étaient repris par la presse. Ouais. Un seul tweet faisait les gros titres. Ouais. Une seule apparition devenait une émeute. Ouais. Tu vois, et vous, j'ai l'impression que c'était le même cas de figure. C'était pareil. Peut-être même décuplé.
C'est pareil, ouais. C'est pareil. Ça se trouve, ouais, même c'est décuplé. Pourquoi? Parce qu'on est plus. Dadju, il est tout seul, tu vois. Nous, on était sept. Et c'est vrai que les apparitions, ça montrait clairement un truc de waouh, il se passe quelque chose d'énorme. Par exemple, le jour où on fait Beaubourg à Châtelet.
Ouais.
Je ne sais plus c'est pour quel projet exactement, mais on avait donné rendez-vous à tous nos fans à Beaubourg. On s'attendait à une centaine de personnes. Grand maximum, allez, 100, 150. Histoire... tu sais, à l'époque, on avait des MSN. Et les MSN, on parlait avec les gens. C'était nos réseaux de l'époque. Ouais. On parlait avec les gens directement. On vendait nos CD, nos t-shirts, nos verbatim gravés, tout ça, machin. Et on donnait rendez-vous aux gens chez eux dans leur cité ou dans Paris. Et quand on a donné rendez-vous pour la sortie du projet, on attendait 150 personnes, allez 200 max. La place Beaubourg était noire de monde. C'est des images que tu peux retrouver encore sur Internet. Il y avait plus de 5000 personnes. Et on est parti en freestyle. Il y a même des rappeurs connus qui étaient là, qui étaient dans l'ambiance avec nous. Tout le monde, en fait, tout le monde était Watibé, section d'assaut, à ce moment-là. Je me rappelle même que j'ai fini. Avant d'aller à Skyrock, parce qu'on avait un Planet Rap, j'ai fini dans une laverie enfermée par des fans qui veulent rentrer pour juste prendre une photo ou parler avec moi. Les Rolling Stones de cette époque, à notre échelle, tu vois.
Bien sûr. Et je confirme tout ça. Et comment la famille, justement, là, a accueilli ce phénomène-là? Ce Black M, cette starification?
Du fait que moi, je sois dans mon délire vraiment très renfermé sur moi-même et encore plus à cause du pilon, je calcule pas forcément ce que pensent mes sœurs ou ce que pense mon petit frère. Et lui, il est encore petit et mes parents encore moins. J'ai un objectif, c'est... qu'un jour je rentre et que mon père me dit « Ah, je t'ai vu à la télé » ou « Je vois que ça marche pour toi », tu vois. Et ce jour est arrivé difficilement. La reconnaissance du daron, ouais, c'était vraiment parce qu'on a percé et c'est bien après, longtemps après, que mon daron, il a accepté. Parce que les premiers concerts, on a commencé tout petit, on a commencé par la scène Bastille, je crois. Où on avait les t-shirts T-Bet ou quoi à l'époque. Après, on a fait de la plus petite à la plus grande salle. Et quand on passe par l'Élysée-Montmartre, ma mère tire mon père... Non, Zénith, pardon. Ma mère, elle tire mon père jusqu'au Zénith et elle lui dit, regarde, ça, c'est pour Alpha. C'est mon prénom. et son groupe. Et juste, il regarde. On n'est même pas monté sur scène. Il dit ça, c'est pour Alpha. Ok. Il rentre à la maison. Il n'est pas resté. Tu vois ? C'est-à-dire qu'il était. L'éducation d'un daron qu'un free, Peul, Mousslim, ils sont pas dans la musique. C'est même mal vu d'être musicien chez nous. C'est très mal vu. D'être musicien chez les Peul, ça passe pas, en réalité, tu vois. Et donc, du coup, moi, mon père, j'ai eu plein d'étapes avec lui. J'ai eu l'étape où on signe chez Sony, où on est tous contents de rentrer chez nous avec notre contrat, où je lui pose le contrat sur la table en mode fierté. Il regarde les infos, il baisse pas le regard. Il regarde droit devant lui. Je dis, papa, j'ai signé. Il s'en cogne complètement. Et je sais pas pourquoi ça m'a pas ralenti, ça. C'est pas des trucs qui m'ont ralenti. J'étais à chaque fois en mode, ah là, ça te touche pas. Tu vas voir, je vais faire un truc qui va te toucher à un moment donné. Et effectivement, ce truc-là, il est arrivé beaucoup plus tard. Parce que t'as vu, là, on parle de la période Section d'Assaut où on a eu notre grand boom. Bah, c'est 2009-2012. Mon père, il a fait attention à ce que je faisais en 2016.
D'accord. Mais vos rapports étaient conflictuels à cette époque-là ?
De moins en moins. De moins en moins parce que il voyait que je commençais à me débrouiller.
Mais tout à l'heure, tu disais que tu fumais beaucoup le doré. Mmh. Mais il le savait, ça ?
Bah, je pense qu'il le savait. Il m'a pas vu le faire, mais je pense qu'il le savait. Tu sais, tu rentres à 3-4 heures du matin. Quand tu rentres, tu viens de fumer ton dernier bail. Tu montes, tu sens, en fait. Des parents, ils savent, en fait. Moi, si j'ai mon fils, là, bon, il est encore tout petit, hein, mais le moindre truc qu'il fait, je sais. Mes parents, ils savent.
Tu sais, tu nous parles de Sony, on parle de phénomène, on parle de tout ça. On est obligé de rendre ses props à Dawala. Mm-hmm. Parce qu'on l'a reçu et je le salue au passage. Tu sais, il avait du nez.
De fou.
Il faut dire la vérité parce que voir cette gueusenée comme ça, frérot, moi, je vais dire la vérité. Je ne sais pas si je vais mettre une pièce. Hein, parce que tu ne sais pas où tu vas aller. Tu ne sais pas s'il y aura...
Tu sais pas si tu vas rentabiliser.
Tu sais pas si tu vas rentabiliser. Tu sais pas s'il y aura retour sur investissement. Alors, je te parle même pas des bénéfices. Et là, il y a un moment donné, il faut dire la vérité. Moi, tu sais, quand je parle avec tes frères de la section, ils me disaient qu'à l'époque, t'étais son poulain, t'étais son petit préféré.
Ouais, c'est vrai.
Son chouchou. Aujourd'hui, il y a du grabuge. N'ayons pas peur de le dire. Et je veux même pas qu'on rentre dedans. Parce que t'en as parlé ailleurs. Parce que t'en parleras certainement après. Et je pense que le concernant, on a déjà dit pas mal de choses. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, en plus, c'est même pas le but.
C'est pas le but, mais merci pour ça. Maintenant, moi, ce que je veux savoir, c'est que, tu sais, par exemple, parfois avec des frères, il y a du grabuge. Mmh. Même quand il y a de l'amour, parce qu'il y a des tierces personnes qui rajoutent leur grain de sel. Parce que parfois, les versions que t'entends ne sont pas forcément les bonnes. Mmh. Moi, je veux savoir, que ce soit avec Dawa ou un autre, pourquoi quand il y a du grabuge, ça ne se règle pas derrière la caméra. Tu sais, dernièrement, en ce moment, on voit que Drake et Birdman sont ensemble. Pourtant, on sait que c'était la guerre. Mais il n'y a rien qui est sorti.
Ouais, ils sont forts.
Est-ce que tu me suis, mon Renoir ?
Ils sont trop forts.
C'est ce que je veux savoir, frère.
Bah, je pense qu'ils ont été plus intelligents que nous, et je m'intègre dedans parce que on a tous à un moment donné craqué et parlé et dit les choses là où elles doivent pas être dites, je pense, parce que c'est vrai que c'est le linge sale, ça se règle pas en public en réalité. Et surtout, tu sais, moi de ce truc là, ce qui est dommage, c'est que quand on parle de famille, T'as vu l'amour avec lequel je parle de section?
Ouais.
Je te jure qu'on avait tous le même pour Dawala. Mais identique. Si ce n'est pire, hein, parce que, en fait, il nous a sorti d'un trou. Tu vois? Il nous a sorti d'un trou et tu peux que admirer. Tu peux que admirer parce que, et il nous met partout. il a un personnage, tu l'as reçu.
Absolument.
Il est Rama, tu vois, il a tout, c'est Dawala quoi, tu vois. Mais après, je pense que toute personne qui est venue ici ou qui va venir ici, qui a fait partie du Watibé, te dira la même chose. C'est de la gestion. C'est de la gestion de business qui, à ce moment-là, quand tu merdes une fois, vas-y tranquille. Deux fois, vas-y tranquille. Trois, quatre. Après, on peut plus.
En tout cas, moi, ce que je peux dire là-dessus, c'est que tu vois, même hors caméra, parce qu'on a causé avec le frère, forcément, il avait que de l'amour pour toi. Ça, c'est. Moi, en tout cas, je te le dis en toute transparence, hein, Frangin. Je sais qu'en ce moment, ça ne va pas trop, mais en tout, il avait que de l'amour pour toi. Et il espérait vraiment que les relations se tassent, s'apaisent et que vous repartiez de l'avant. Parce que moi, quand je vois des trucs comme ça,
mais tu sais, je vais
je
dire,
vois que deux perdants.
Tu sais, ouais, c'est deux perdants. Je vais te dire un truc. Quand l'interview est sorti avec Dawala, je crois qu'il en a fait deux, trois, un truc comme ça. Il y a eu ton média, il y en a eu un autre, où j'ai entendu mon nom. Et on était en période du Ramadan, si je ne me trompe pas, quand c'est sorti. Et moi, à chaque période de Ramadan, je me dis, Dieu est témoin, je me dis, je vais prendre mon téléphone et envoyer des messages aux gens avec qui il y a un petit truc. Tu vois, juste écoute ce que je vais dire, juste parce que j'ai peur de, si je pars, si je quitte ce monde, en fait, je veux pas que quelqu'un m'en veuille, tu vois. Et donc moi, la période où tu as sorti l'interview avec Dawa, eh ben c'est une période où je veux prendre mon téléphone et envoyer un message au frère, lui dire salam, c'est comment, ça va, machin, prendre des nouvelles. Prendre la température, voir s'il y a moyen de se reparler. Et ça, je ne le fais pas qu'avec lui. Hein. Je le fais avec toute personne avec qui il y a un truc. Ça, c'est moi, personnellement, tu vois. Malheureusement, quand je suis tombé sur l'interview...
Mais ce n'était pas ici.
Ce n'était pas ici, c'était ailleurs. Quand j'ai entendu mon nom là où il ne devait pas être, bah, ça m'a refroidi. Et malheureusement, je n'ai pas été au bout de ma démarche.
En tout cas, j'espère qu'il appréciera ces paroles sincères, Frangin.
J'espère aussi qu'il l'entendra aussi.
Merci en tout cas pour cette transparence, mon frérot.
J'essaye, on en a besoin.
On n'est que des hommes, frérot.
Tout simplement.
On n'est que des hommes. Mm. Et revenons sur l'aspect musical. Par la suite, tu as continué en solo. Mm. C'est un raz-de-marée encore.
Inattendu.
Disque de diamant.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire?
Je crois il est double même, le premier double, ouais.
Autant pour moi, merci pour la petite précision.
Je précise, ouais.
C'est ouais, important. Mais t'as raison.
Ouais, il était double.
Magnifique, frère. Là, à ce moment-là, parce que, tu sais, et je voulais pas appuyer tout à l'heure, là, tu me tends un petit peu la perche, mais je savais que, avec la section, oui, phénomène, oui, il y avait beaucoup de choses, mais vous étiez beaucoup. Mm. Donc, forcément, il y avait, les poches n'étaient pas encore remplies. Mm. Là, en solo, comment ça se passe?
Ah, si tu me poses la question, je vais être obligé de dire des trucs. En solo, en fait, moi, quand je pars en solo, c'est comme si je partais pas en solo.
C'est-à-dire?
Après, c'était pas plus mal parce que j'étais pas prêt à partir en solo. Je sais pas comment t'expliquer. C'est-à-dire que si tu fais des recherches sur le passé des tournées Black M, j'ai commencé par une tournée qui s'appelle Watibé All Star. Ok? Et à cette époque-là, tu vois ma grosse tête devant sur l'affiche et derrière tout le reste du Watibé. Mais pour moi, c'est terrible parce que la famille m'accompagne, tu vois. Mais, businessment parlant, quelques années plus tard, ben, je me rends compte que c'est pas terrible.
Okay.
Je sais pas si tu captes, parce que en vrai, je suis au moment où sur ma route et là-haut,
ouais.
Tu vois. C'est-à-dire que moi, tout seul, je peux remplir mes salles et prendre mon wari ouais. Et faire mes queutrues. Là, tu me parles de business, je te réponds franchement, hein, tu vois.
Il faut.
Mais j'étais avec Watibé All Star. Ça veut dire que tout ce que je gagnais était redistribué. Et comme c'était un truc où je faisais pas attention au business. Moi, j'ai commencé à faire attention réellement au business tard. Vraiment, genre vraiment tard. Et ben, Je me suis laissé emporter dans le truc. Et je regrette rien parce que on a vécu des choses extraordinaires. Je suis pas en train de dire que j'aurais aimé qu'il y ait personne sur ma tournée. J'étais avec Dry, j'étais avec une partie de la section, j'étais avec Linda Sherazade, j'étais, il y avait du monde, tu vois, il y avait Dajou, il y avait
De Bang, non?
Il y avait De Bang, il y avait Aboutal, il y avait Shinsekai, le groupe Dajou et Aboutal, et ils m'ont suivi, je les ai emmenés pendant 3-4 ans en tournée avec moi partout, tu vois. Et mais à la fin de ça, et ben en fait, en vrai, j'ai distribué mon argent. en vrai, de vrai. Parce qu'ils viennent avec moi en tournée. C'est ma tournée. Et je pourrais tout faire tout seul, comme ils font tous d'ailleurs, là. C'est en solo, tu vois. Et ben, moi, c'est pas ce qui s'est passé. Mais je le regrette pas. C'est juste que si j'aurais été armé businessment parlant, j'aurais peut-être pas fait ça. Mais c'est Dawala qui m'a conseillé de faire ça. T'as besoin d'eux, ils sont là, c'est une équipe de foot. Et je buvais toutes les paroles. Ouais, t'as raison, machin. Je dis pas qu'il a tort, hein, parce que ça m'a formé de fou sur scène. Ça m'a donné des armes bien solides sur scène. Mais en termes de business, j'aurais pu être mieux.
Ouais, je comprends. Mais j'ai envie de te dire, c'est en forgeant qu'on devient forgeron.
Exactement.
Mm-hmm. Mais quand je parle avec De Bang, il a que du love également pour toi, en disant que tu l'as beaucoup aidé. Mm-hmm. Tu l'as placé par moments. Il a gagné de l'argent grâce à toi. Aujourd'hui, il s'est émancipé. Lui-même est patron. Tu vois, donc finalement...
C'est pas plus mal. Après, De Bang, c'est... T'as vu, on se voit plus trop aujourd'hui parce qu'il fait ses trucs, je fais mes trucs, mais à chaque fois qu'on se voit, il suffit juste qu'il me fasse un petit sourire et ça y est, je suis... Tu sais, c'est mon... Parce que t'as vu, on était tout le temps ensemble, en vrai. À une période, on était tout le temps ensemble. Et il connaissait toutes mes histoires, je connaissais toutes ses histoires. Et il y a eu un beau jour où il a décidé de faire son chemin, où c'est peut-être une période où je l'ai mal pris, tu vois, en me disant « Ah, le frère, t'as vu, moi, je marche un peu moins bien et il est à gauche, à droite. » Et mais ce qu'il y a de magique, c'est qu'à chaque fois que je le vois pas souvent, mais ça disparaît soudain. Ça disparaît soudain et... Parce qu'en fait, je le connais depuis tout petit. Ouais, en fait, c'était mon préféré de son groupe. Le petit Kizozote qui a la voix cassée, machin. J'aimais trop De Bang.
Il est solaire, en tout cas. Et ça, je confirme.
Ouais, si, c'est vrai. Ça.
Le shout-out, le frère. Et tu sais, toi, je vais te sortir une énième anecdote. Il y a The Lox, Djaraki, c'est son groupe. Mm-hmm. Qui était à l'époque chez Bad Boy, le label dirigé par Puff Daddy. Mmh. Et il disait que lui, il a détesté cette époque. Pourquoi? Parce que, tu sais, venir dans les clips avec les shiny suits, les costumes brillants, rapper sur les morceaux avec les Maria Carré, sur le Oni, machin. Il disait qu'il n'a pas aimé. Il l'a fait par business parce que Puff, il lui a dit. Est-ce que toi, tu as déjà été dans cette configuration où tu n'as pas aimé tes morceaux, mais tu as pensé à l'aspect pécunier?
Jamais. Jamais. Alors qu'on pourrait se dire que si. Parce que il y a par moments où je sors du personnage Black M, mais c'est que je me laisse emporter dans un truc de success story finalement. Quand tu sors d'un album où il y a un morceau comme Sur ma route, qui est aujourd'hui, l'année prochaine, là, en 2024, il aura 10 ans. Les petits d'aujourd'hui encore, ils chantent ce morceau. C'est-à-dire qu'il est vraiment trop gros, le morceau. Quand tu sors de ça, eh ben, forcément, t'as envie de réaliser encore la même chose. Mais ça veut pas dire que tu fais des choses que tu ne veux pas faire. Je sais pas comment t'expliquer. C'est tu fais, t'es dans la vague du truc, ça marche, et donc, tu regardes pas derrière. Tu te dis pas, ouais, les premiers supporters, eux, c'était un couplet purement rappé où ça parlait de kick à machin, nanana, ça kickait. En fait, c'est de l'évolution, finalement, je trouve. C'est évoluer.
Et déjà, je comprends totalement, pour commencer. Et secondo, toi, est-ce que l'argent t'a fait faire des choses que tu regrettes aujourd'hui?
Tu sais pourquoi? Non, parce qu'à chaque fois, je me rends pas compte qu'il y a de l'argent. C'est ça que j'essaie de plus ou moins expliquer à travers le personnage Black M, c'est que Je sais pas, tu prends mes plus gros succès, tu prends Sur ma route. Moi, j'ai vu après qu'il y avait de l'oseille. C'est-à-dire que, sur le coup, moi, je sais pas. C'est quand je vois les sommes qui tombent, je me dis, ah ouais, d'accord. Donc là, on va avoir besoin d'un comptable. Là, on va avoir besoin de ci, de ça. Là, je vais acheter... Tu sais, je sais pas. Quand je vois les autres succès, par exemple, il y a un morceau que j'ai fait à l'époque avec Kev Adams, Aladdin, qui était très... Qui était un peu tout le contraire de Section, en vrai, finalement. Tu sais, il était très radiophonique, très, tu vois, très mainstream. Et donc, du coup, moi, ce morceau, je l'ai fait. Il est 4h du matin. Le frérot Kev, il m'envoie un script. Il me dit, ouais, je tourne un film, machin. Moi, je suis déjà au studio, donc je suis déjà à ma place. Et je suis avec mon gars Stan E, big up au frérot, d'ailleurs. Et dans la foulée des sons qu'on est en train de créer, je dis, tiens, je viens de recevoir ça, il m'a demandé ça, le frérot, viens, on teste un truc. Hop, ça part. Et on le fait, on délire, en fait. On est dans un délire. Mais je ne sais pas, moi, que le morceau, il va tout péter et ramener de l'argent. C'est après que le truc, il arrive et je dis, ah ouais, d'accord. Tu vois, donc, j'ai pas le truc de... Je fais des trucs contre ce que moi, j'aime.
T'es transparent, Black. Hein. Et moi, je respecte ça. Hein. Tu vois, t'arrives avec humilité. Non, mais c'est bien, c'est bien. Et tu sais, dans cette vie-là qui allait à 1000 à l'heure, t'es devenu papa aussi.
Ouais.
Tu vois, ta femme marche avec toi aussi. Mm-hmm. Tu vois, en concert. Moi, il y a une fois, je t'ai vu à l'aéroport de Marrakech. C'était, je sais plus, peut-être.
C'est possible.
Non. C'est certain. Okay. Je t'ai vu là-bas et tout, t'étais avec ta femme. Bon, vous n'étiez pas côte à côte, hein. Peut-être que vous aviez évité les paparazzades. T'étais un peu devant, elle était juste un peu derrière, c'est une petite précision. Mais tout ça pour te dire que, en vérité, vous étiez et vous êtes même toujours ensemble, sur scène, etc. Comment on fait quand on a un petit derrière?
Ah, c'est complexe. C'est complexe parce qu'en plus, nous, notre petit, il n'est pas né dans de bonnes conditions. Mais bon... Je vais pas pleurer encore sur mon sort à ce niveau-là parce que c'est un truc que j'ai beaucoup raconté et bon, il est juste né prématuré, il est né à 6 mois. C'était pas facile. Pourquoi? Parce que j'étais en full success story de Section à cette période-là. Donc, c'était assez compliqué, surtout pour la maman. Tu vois, je trouve qu'elle est très, très forte. Et je dis pas ça pour lui mettre de la pommade ou quoi, pour qu'elle voit l'interview et qu'elle se dit, ah, merci. Je parle sincère. C'est une femme très, très forte. Que je respecte énormément parce que faut supporter un artiste dans la musique urbaine et surtout un artiste qui part de rien et qui devient limite une rockstar, que ce soit en groupe ou en solo, c'est des trucs à supporter. Pour une femme, on s'en rend pas compte, mais c'est très 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 difficile. Et elle a su gérer avec le temps, on a su trouver notre équilibre. Et aujourd'hui, c'est magnifique.
C'est bien de lui rendre ce love et de lui rendre ses props à ta reine. Mmh. Et voilà, c'était le petit. Il n'a pas trop été perturbé de voir son père tout le temps en train de tourner, sa maman qui le suit.
Il y a un truc qu'il m'a dit un jour. On se baladait sur Paris. Il était sur mes épaules. Il m'a dit, papa, pourquoi tu as beaucoup d'amis? Et en fait, lui... Parce qu'en fait, tout le monde m'arrête dans la rue. Ah, Black, ça va? Ah, Black, ça va? Ah, Black, on peut prendre une photo? Ah, Black, machin. Et je lui dis, non, mais c'est pas mes amis. C'est en fait, c'est parce que je fais de la musique, je suis reconnu. Et c'est à un âge où il commençait à comprendre les choses. Et du coup, aujourd'hui, à 11 ans, bah, quand on se balade, c'est lui qui va faire attention à moi. Il va dire, papa, viens, on va pas vers là-bas, il y a du monde, ils vont te reconnaître. Papa, viens, on fait ci. Bon, je sais que là, tu peux pas faire ça parce que tu peux pas aller au laser game avec moi parce que il va y avoir tous mes potes et ils vont te casser la tête. Ils veulent ci, ils veulent ça. En fait, il est très conscient de ce qui se passe. Et je suis trop fier de lui, en fait.
Les protecteurs.
Ouais, les protecteurs.
Mm-hmm. Mm. On l'embrasse, le fiston.
Merci.
Et tu sais, là, aujourd'hui, on parle beaucoup d'entourage. Toi, pour toi, c'est fondamental de marcher avec des gens qui connaissent Alpha avant Black M. Tu vois, parce que si on dézoome un petit peu, on voit qu'il y a ta femme qui est à côté. Mm. On a vu Debain qui était avec toi, qui te connaissait un petit peu. Mm. Alassane,
PDG.
Tu vois, absolument. Another one. Et tu vois, et finalement, moi, quand je dézoome un petit peu, c'est que des gens qui te connaissent personnellement.
Ouais. Il y a ma sœur aussi.
Il y a ta sœur, pardon, Mariama. Mm. Tu vois ce que je veux dire? C'est un choix purement calculé?
Oui et non. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, si tu me dis de refaire une équipe, bah pour rien au monde, je la refais parce que je suis avec une bête d'équipe. Là, on parle de tous ces gens-là. Je peux même parler de mon ingé son qui s'appelle Raph, qui nous a vu grandir à travers Section d'Assaut, mais qui est avec moi aujourd'hui, tu vois. Et si tu regardes, par exemple, mon dernier clip, Dr. Snitch, c'est la petite sœur de ma femme qui l'a fait. Elle a 20 piges. Elle a un jumeau. Il travaille avec nous. Enfin, il travaillait. En fait, on est totalement en famille. Et je trouve que c'est super important. Et je vais même aller plus loin. Il y a certains titres de l'album. C'est ma mère. Elle dit, celui-là, je l'aime bien. Je dis, ah, comme t'aimes bien, je mets.
Okay.
C'est pas pour jouer le côté famille, mais je suis très famille. Et ça me sauve de plein de bourbiers. Tu vois? Ça me sauve de plein de trucs parce qu'en fait, la famille, ils vont pas hésiter à te dire c'est pas bon. Si t'as un entourage du game où on te voit en Black M plus, tu vois, bah ils sont plus dans le je vais satisfaire Black M pour rester avec Black M. Ma sœur, elle a pas besoin de me satisfaire pour rester avec moi. Elle va rester avec moi, qu'elle me satisfait ou pas, tu vois. Et donc, du coup, le côté famille, il me sauve à ce niveau-là. Ma femme me sauve, mes sœurs me sauvent, mon petit frère me sauve, mes parents me sauvent, mes enfants, toute la famille me sauve à ce niveau-là.
Et t'as pas peur aussi que l'aspect argent puisse vous diviser parce que c'est des paramètres qui peuvent rentrer en compte? Tu sais, moi, dans mon quartier, je voulais acheter une voiture à un ami que je considère comme un frère. Mmh. Et il m'a dit, Eladj, je fais jamais d'affaires avec la famille. Je préfère le vendre.
Ok.
Tu vois. Sur le coup, j'ai des espèces de sale poux. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, j'ai capté.
Mais en prenant du recul, j'ai analysé ça et je me suis dit, c'est une autre philosophie.
Ouais, c'est une autre philosophie. Ça dépend, en fait, de la famille dans laquelle t'es, avec qui t'es. Absolument. T'as vu, nous, je dis souvent, moi, je suis en mode ma famille d'abord. Tu vois la série Ma Famille D'Abord?
Absolument.
C'est chez nous, version Quimfri. C'est-à-dire que nous, ça fait que de rigoler, ça fait... Tu sais, ça se tire dessus non-stop, mais on se connaît tellement bien que moi, ma sœur, elle peut travailler avec moi. Mon petit frère, tout le monde peut travailler avec moi. Et en plus... T'as vu à ce stade-là, à ce niveau de Black M, parce que Black M, c'est comme toute carrière, c'est les montagnes russes. Tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Et quand tu montes, ben, tu sais pas, il y a qui avec toi, en fait, parce qu'il y a tout le monde. Mais maintenant, quand tu descends, quand tu redescends, eh ben, le tout le monde là, l'attaché de presse qui t'appelait tout le temps, il est plus là. Le frérot qui était tout le temps là parce que machin, nan, et ça y avait du succès, il est plus là. Et il reste, finalement, tu te poses, t'es en bas, tu te poses vraiment, et même hors musique, hein, parfois même des... Là, je te racontais hors caméra mon problème de santé,
ouais,
là.
Ouais.
Frère, c'est pas tout le monde, hein, qui va m'appeler pour me dire est-ce que ça va. C'est-à-dire que c'est les proches. Bon, ma famille, eux, ça bouge pas, ils m'appelleront toujours, je le sais. Mais en termes d'amitié, c'est pas tout le monde qui va t'appeler pour te dire « Allô, j'ai entendu que t'as eu ci, ça. » Il y en a pas beaucoup.
C'est très bien de mettre la famille au centre des débats, comme tu le fais, hein, Frangin. Et tu sais, aujourd'hui, hein, forcément, mettons les deux pieds dans le plat. Dernièrement, il y a eu le procès d'MHD, tu vois.
Bien sûr.
Tu sais, et déjà, j'en profite pour passer le salam, justement, à la famille de Loïc et ce défunt frère qui a perdu la vie.
Bien sûr.
C'est important aussi de le marteler. Tu sais, on est à une ère où on parle souvent d'entourage. On parle souvent du fait qu'il faut aussi savoir se défaire de certains amis toxiques, néfastes, qui peuvent t'emmener faire des choses toxiques, néfastes. Toi, Déjà, ce serait quoi le message que tu pourrais distiller à la jeune génération? Parce qu'aujourd'hui, tu es quelqu'un qui a du bagou et qui a un CV assez important. Qu'est-ce que tu dirais, toi, aux jeunes frères qui arrivent dans ce milieu? Parce que je t'assure que il y en a qui n'arrivent pas à se défaire. Et le syndrome de l'imposteur est quelque chose qu'il ne faut pas occulter.
Malheureusement, je fais partie des gens qui pensent que pour comprendre les choses, il faut les vivre. J'ai l'impression qu'avec la génération de petits qu'il y a aujourd'hui, bah, ils ont vraiment besoin de vivre leur expérience pour comprendre. Et qu'on a beau leur dire, que ça soit un message positif ou des coups de pression ou ce que tu veux, des coups de pression de grand frère, tout ce que tu veux, le petit, il a besoin de vivre son truc pour le comprendre. Donc, arriver et faire le moralisateur, dire les petits frères, ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bien. C'est un devoir en tant que grand frère.
Ouais.
Mais je ne pense pas que les petits écoutent, malheureusement. Il faut qu'ils vivent leur truc, malheureusement. Et t'en as, ils captent au bout de la première bêtise qui va pas loin. Ils ont le temps de se rattraper. Il y en a, ils captent au bout de la deuxième. Il y en a, ils captent quand c'est trop tard. Tu vois? Après, on aura toujours le discours de les gars, la rue, là, les histoires de rue. C'est pas là-bas que ça se passe. C'est pas du tout là-bas que ça se passe si tu veux, dans le futur fonder une famille, être dans le propre, si tu veux faire les choses bien, c'est pas dans la street. Mais ça, c'est depuis l'aube des temps, en vrai. Et j'ai même l'impression qu'eux-mêmes, ils savent, en vrai.
Tu sais, je me permets de te lancer sur ça, parce que forcément, c'est un protagoniste que tu connais. Et tu sais, moi, quand je dézoome encore, je vois que des perdants.
Dans
l'affaire RMHD, je vois que des perdants.
Ouais.
Je vois des perdants de tous les côtés, frère.
Bah, les premiers perdants, c'est la famille
du défunt. Complètement, mais je vois des perdants de tous les côtés. Parce que quand j'ai entendu les cris de la mère, de MHD,
ouais, j'ai vu aussi.
Ça t'arrache le cœur.
Ouais.
Tu comprends? Pareil pour la famille. Et c'est pour ça que je t'assure que, et ça me gêne même d'en parler, mais si on peut, à travers ce média, propager un message d'union, un message de paix et d'amour, et justement de la prévention, parce que clairement, tu sais, quand je parle avec certaines personnes qui sont relativement plus jeunes que nous, eh ben, elles se disent qu'elles vont rester ad vitam aeternam avec les mêmes personnes du début à la fin. Et la vie nous prouve le contraire.
Oui, bah clairement. Clairement. De toute façon, c'est comme je t'ai dit, ces jeunes vont vivre leur propre expérience. Moi, mon père, il me disait, tu vois, t'es avec une bande de potes, là. Ils vont en rester deux, grand maximum. Et encore, ça se trouve, un seul gars sûr, réel. Et il a raison, en fait. Aujourd'hui, de tous mes gars, j'en ai plein, j'aime énormément de monde, j'apprécie énormément de monde, mais les seules personnes que je peux appeler, leur raconter mes problèmes de A à Z, sont trois, maximum. Et encore trois, je suis gentil. Deux. Ils sont deux. Voilà, ils sont deux. Je peux pas raconter ma vie à tout le monde.
Bien sûr. Je comprends totalement. En tout cas, il fallait qu'on parle de ça.
Mais en ce qui concerne ce sujet, ouais, le message, il reste... juste tu regardes l'histoire, tu dézoomes, t'as tout dit, il y a des perdants des deux côtés.
Bien sûr.
Paix à son âme, au petit Loïc. Et surtout, bah, pour les jeunes qui sont encore dans ça, juste regardez l'histoire.
C'est ça.
Juste observez. Et si vous êtes dans ça, bah, vous avez capté que il va y avoir un mort quelque part, ça se trouve, et ça se trouve, il va y avoir quelqu'un qui va être pris par la justice. Et dans les deux cas, c'est la mort ou la prison, c'est, tu vois, t'es perdant.
Exactement. Merci en tout cas pour cette précision et pour cette transparence, Black, sincèrement. Et tu sais, voilà, professionnellement, t'as fait le tour des concerts sold out. Des disques de diamants, double disque de diamants. Je précise.
Une galère.
Pourquoi tu continues?
C'est de la passion.
Mm-hmm.
C'est de la passion. Et sûrement, il doit y avoir le truc, sans mentir, le truc d'ego qui dit « Ah, mais quand même, premier album, j'ai réussi à vendre 1 million de CD. Deuxième, j'ai vendu 300 000. Troisième, c'est descendu. Je veux confirmer que je suis capable de... » Ouais. Peut-être qu'il y a encore ça, encore. Et c'est même pas peut-être, c'est sûr, en réalité. Mais c'est beaucoup plus un côté passion qu'un côté... Tu sais, c'est de la passion, en fait. En fait, je fais ça depuis que j'ai 14 ans. Et bon, je suis pas non plus le fou à côté qui ne fait que ça. Ma vie, c'est pas que être en studio, faire des concerts et aller à la rencontre des gens pour vendre ma musique. J'essaye un peu de me diversifier avec le temps. J'ai ouvert un restaurant, tu vois.
Bien sûr.
Qui tourne bien. Je suis très content. Je fais attention à l'immobilier. Tu vois, on essaie d'être... En vrai de vrai, on dirait pas comme ça, mais dans 2 ans, j'ai 40 ans, tu vois. Donc...
Toujours fraîche.
On essaye. On essaye. Donc en vrai, on essaye de se diversifier, mais si je fais de la musique encore, c'est de la passion. Mais par contre, je me mets une pression de malade parce que je me vois pas faire de carrière dans la musique comme un exemple tel que un Joystar, par exemple. Je me vois pas faire ça. Ou d'autres artistes qui sont encore là aujourd'hui. Tu sais, nos grands dans la musique, hein, les artistes qu'on a pu écouter nous quand on était petits. Je me vois pas m'approcher des 50 ans et être dans la musique. J'espère vraiment pas.
Ils ont tous dit ça, mais ils ont continué, les plus anciens. Donc c'est pas dit que toi aussi.
C'est vrai, mais il y en a pas mal qui ont bougé. Il y en a pas mal qui ont bougé. Pas forcément des gros succès, mais et encore, hein, il y en a, ils ont eu pas mal de succès qui, d'un seul coup, ils se sont dit, bon, ça y est, moi, c'est bon.
C'est bien vrai, frérot.
Tu vois?
C'est bien vrai, mon frangin. Et voilà, forcément, tout à l'heure, on a parlé un peu de Guinée. Je t'ai dit, chez OUYESL, on allait partout. C'est quoi tes rapports avec ce merveilleux pays?
Le rapport que j'ai avec... merci de dire ce merveilleux pays, parce que c'est un merveilleux pays. Mais comme toute l'Afrique, d'ailleurs, hein, j'ai envie de te dire. Et comme le monde, en vrai, le monde est merveilleux, en réalité, frère, on s'en rend pas compte, on le dit pas assez, mais c'est beau ce qu'il y a autour de nous. C'est l'être humain qui fait des mauvaises choses autour de ce qu'il y a autour de notre terre, mais sinon, la terre, elle est belle. Mais concernant la Guinée, mon rapport, j'y vais depuis que mon père m'emmène depuis que je suis tout petit. Donc, du coup, forcément, je suis attaché, connecté de la tête, du cœur. Il y a encore ma grand-mère là-bas, il y a ma grand-mère maternelle. J'ai connu ma grand-mère paternelle, paix à son âme, qui n'est plus là. T'as vu, nous, on est allé à des âges où on a... Comme je t'ai dit, j'ai bientôt 40 ans, donc si moi, j'ai bientôt 40 ans, nos grands-pères, nos oncles, ils sont en fin de vie, donc je perds beaucoup de gens. On a une période où on perd beaucoup de gens, surtout les anciens. Et soudain, ça commence à devenir nous, les anciens. Absolument. Tu vois, les enfants, ils nous voient comme... c'est nous, en fait, tu vois. Et du coup, la Guinée, j'ai plein de projets dans la tête pour mon pays d'origine. Mais plein que je suis en cours de réalisation et que j'aimerais réaliser. Et vraiment, vraiment... Bah, c'est des choses que je dis aussi hors caméra quand je me retrouve avec des Guinéens ou des Westaf. C'est vraiment quelque chose que je ne vais pas lâcher. Et les gens, ils le verront de toute façon.
En tout cas, nous, on t'encourage à poursuivre ces efforts. Mmh. Et tu sais, il y a quelques temps, il y a eu des propos assez maladroits que tu as pu tenir.
Bien sûr.
Envers la Guinée. Déjà, moi, j'aimerais que tu rectifies le tir.
Bien sûr.
Tu vois, parce que, encore une fois, tu sais, ça a fait les choux gras. Il y en a qui ont...
Ça a été polémiqué. Hein, ça,
absolument, c'est... absolument. Tu vois, donc...
Ouais.
Si on peut profiter de l'occasion, justement.
En fait, moi, si tu veux, j'ai pas voulu... si tu connais le fin fond de l'histoire, hein, j'ai pas voulu dire que le franc CFA est mieux que le franc guinéen. C'est ce qui s'est passé à cette époque-là, à l'époque de cette interview. C'est comme ça que les gens ils l'ont perçu. Mais c'est pas ce que j'ai voulu dire. Et en plus, malheureusement, je sais pas qui a fait ce truc, mais l'interview, elle est la phrase, elle est un peu sortie de son contexte. Parce que la journaliste, elle me pose la question, elle me dit, elle me parle de la Guinée. Donc forcément, moi, j'ai le souvenir de, quand tu me parles de la Guinée, que c'est difficile. Mais il n'y a pas que le côté pauvreté. Et il y a tellement de choses merveilleuses
en
Guinée.
Absolument, absolument.
Mais c'est pas un truc que j'ai développé dans la conversation parce que le sujet n'amenait pas à ça. Tu vois? Donc j'ai dit les petits côtés où c'était difficile. Et je sais pas pourquoi l'interview, elle a été coupée. Et ce qui a été mis en avant, c'est Black M dénigre le franc guinéen. Mais, moi, ce que j'avais envie de dire à ce moment-là à tous les Guinéens, comment vous voulez que je dénigre un pays qui m'a levé, parce qu'ils m'ont levé, mais d'une manière, t'as même pas idée. Genre, en 2016, quand j'ai été faire mon concert là-bas, à l'aéroport, il y avait 5000 personnes qui m'attendaient. Je sais pas si tu te rends compte. J'étais tout seul. Et c'est d'ailleurs ce jour-là que mon daron, il a commencé à faire attention à ce qui se passe. Mm-hmm. Tu vois? Mm-hmm. Et voilà, ils m'ont levé, et je les vois partout, en fait. Ils sont là, à Paris. Ils sont là quand je vais dans les quatre coins de la France. Ils sont là quand je vais en Italie. Ils sont là quand j'ai fait un voyage aux États-Unis. Je suis sorti du métro à Harlem. C'est que des Guinéens. Tu vois, il n'y a que des Guinéens. Tout le monde me reconnaît. Tout le monde est avec moi. Ça parle la langue avec moi. Donc, comment tu veux que je crache sur un pays qui m'a levé? Et surtout, avant de me lever, dans un pays en réalité dans lequel je suis. Parce que les gens ne savent pas que moi, j'y vais depuis que je suis tout petit. Je connais vraiment... je connais vraiment la Guinée. Je connais pas bien Conakry, la capitale. Mais après ça, quand tu dis de quelqu'un, c'est un villageois, moi, tu peux dire que je suis un villageois.
Mais quoi qu'il en soit, t'es un enfant du pays.
Je suis un enfant du pays, total.
Et merci pour les précisions et la rectification.
Ouais,
et,
c'était une erreur de... Je me suis mal exprimé sur ça. Mm-hmm. J'ai absolument pas voulu dire que le franc CFA était mieux que le franc guinéen. Je voulais juste dire qu'en réalité, il est plus fort en termes de chiffres. C'est une réalité, tu vois. Le franc guinéen n'est pas partout. Le franc CFA est dans plus de pays que le franc guinéen, tu vois.
En tout cas, le message est passé. J'espère que les Guinéens déjà...
Mais ils ont compris avec le temps.
C'est important aussi de profiter justement de cette occasion pour rectifier le tir.
Bien sûr.
Et comme je le dis constamment, nous sommes que des hommes et parfois, notre langue peut fourcher.
Exactement.
Et merci en tout cas pour ces mots.
Merci à toi.
Aujourd'hui, voilà, tu es papa fois deux. Tes enfants, grâce à Dieu, sont entre de bonnes mains. Mm-hmm. Et même l'aspect financier n'est pas à occulter parce que papa a les poches bien remplies.
On essaye.
C'est
on
très
essaye.
Bien et t'as raison. On job aussi pour ça. Mm. Et est-ce que c'est pas difficile justement de faire comprendre à tes enfants la valeur de certaines choses? Je sais pas si tu comprends ce que je suis en train de te dire.
Je comprends très bien et je me suis déjà confronté à ça plusieurs fois. À savoir, je prends pas le métro moi. Je peux pas prendre le métro de par ma notoriété, tu vois. Donc quand j'ai pas de voiture, je suis amené à prendre des taxis. Et dans notre vécu, là, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai entendu mon fils dire qu'il veut un taxi pour partir à tel endroit.
OK.
Et là, je me suis rendu compte du truc que tu es en train d'expliquer. Et qu'en fait, je ne veux pas le mettre dans un truc où il galère comme moi, parce que ce n'est pas le but, dans mon enfance. Je ne veux pas qu'il galère comme j'ai galéré dans mon enfance. Mais par contre, je veux pas qu'il s'habitue à un truc de luxe.
Bien sûr.
Je veux qu'il capte ce que c'est la vie. Et pour ça, j'ai des méthodes bien précises. Ça veut dire que je l'ai déjà pris, donné à ma daronne, un mois au bled, tu restes avec elle, la famille. Tu vois que les enfants là-bas, ils se plaignent pas parce qu'ils s'ennuient. Tu vois, ils sont pas... tu sais, je l'entendais souvent dire par moment avant de son départ, je m'ennuie dans ma chambre. Mais t'as tous les jouets du monde, t'es un ouf, tu vois. Donc, et ma femme aussi, elle est comme ça. Elle lui dit, mais tu te rends pas compte de tout ce que t'as. On va te montrer c'est quoi. Va dans le pays de ton père, dans le pays d'origine de ton père, tu vas voir. ils peuvent pas dire ils s'ennuient là-bas. Ils s'amusent avec tout, tu vois. Il n'y a pas d'ennuiement, mais ils s'amusent avec tout, mais il n'y a rien. Je sais pas si tu captes.
Totalement.
Je parle du village là, qui n'est pas encore des histoires de au bled, il n'y a rien.
J'ai compris.
Là, je parle vraiment de quand tu quittes la capitale, tu vas jusqu'au village. Et quand bien même, j'entends souvent les gens me dire « Oui, maintenant, il y a l'électricité au village. » Les gars, moi, je viens d'un endroit tellement reculé en Guinée que je t'assure que quand je te parle de manque de certaines choses, jusqu'à aujourd'hui, ça manque. Et mon but, justement, c'est de faire changer tout ça à travers ma notoriété. Tu captes ?
Je vois totalement, frérot, et je suis subjugué, tu vois, quand tu contribues justement au bonheur des tiens, en l'occurrence, c'est pas quelque chose qu'il faut mettre de côté. C'est très important et merci pour tout ce travail.
Merci.
Tu sais, il y a quelques temps, arrête-moi si je me trompe, mais moi, je survole un peu Internet, etc. Je tombe sur des articles, sur des capsules où c'était écrit que Black M était en train de prospecter en Côte d'Ivoire.
Ouais.
Tu vois, que Black M cherchait un appartement là-bas, cherchait un appartement, autant pour moi, cherchait une grande maison là-bas. C'est vrai, ça ?
C'est pas faux, mais ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis parti en vacances à Abidjan avec toute ma famille pour faire découvrir justement ce côté ouest africain que j'aime beaucoup. Pourquoi la Côte d'Ivoire ? Parce que ça ressemble... Tu sais, c'est l'Afrique de l'Ouest, en vrai. Ça ressemble à la Guinée, qu'on le veuille ou non. Et... pour faire des voyages en Guinée, c'est plus de préparation parce que faut prévenir la famille, etc. On arrive, faut prévoir. Enfin, il y a trop de trucs, il y a trop de paramètres à gérer quand tu vas chez toi. Donc, je me suis dit, je vais prendre ma famille, on va aller à côté de chez nous. Et j'ai loué une grosse maison hyper belle que j'aurais aimé acheter, mais je l'ai pas achetée. Et je me suis filmé dans la piscine et j'ai dit ouais, en direct des vacances. J'ai juste dit ça, en direct des vacances à Abidjan. Je sais pas quel article a repris le truc pour dire quel gros média ivoirien a repris le truc en disant Black M s'installe en Côte d'Ivoire. Et c'est parti de là. Vague. Et moi, tant qu'on vient pas me demander comme tu le fais là, mais je vais pas prendre mon téléphone et dire hey les gars, vous vous trompez, machin. Non. En vrai, j'attendais devant être un média pour vraiment dire que non, je me suis pas réellement installé, mais j'aimerais bien. J'aimerais bien, c'est pas forcément, je me dis pas, je vais m'installer en Côte d'Ivoire parce que j'ai plusieurs options dans ma tête, dont la Guinée d'ailleurs, mais c'est un peu plus compliqué. Mais si tu veux, moi, dès mes 20 ans, je me suis toujours dit 40 ans, et là c'est dans 2 ans, je change de vie, je suis plus en France. Et là, je suis dans ça, là, je regarde un peu à Abidjan, je regarde un peu là-bas, tac, machin, tu vois. J'essaye de vraiment de changer de mode de vie.
Magnifique. Et ce sera ma dernière question. Tu disais qu'en Guinée, tu comptais faire des choses socialement. Quoi, par exemple ?
Par exemple, je l'ai dit nulle part, mais je vais bientôt commencer à le raconter, ça. Par exemple... Je suis fan de gens qui ont réussi à faire de grosses choses dans leur pays d'origine. Par exemple, tu prends Magic System Asalfo, qui ont fait le FEMUA.
Bien sûr.
Festival le FEMUA, où ils font venir des artistes internationaux chanter dans leur quartier d'enfance. Je te donne un autre exemple, peut-être plus gros à l'échelle de la France, le Marrakech du Rire de Jamel Debbouze, qui a réussi à faire quelque chose d'incroyable, en réalité. Parce que il a mis en avant tellement de talents que son histoire, moi, elle me fascine, malgré tout ce qu'on peut dire, tu vois. Et donc, moi, mon rêve, ça serait de faire un festival annuel en Guinée-Conakry. Et où je rassemble toute la jeunesse, et ça s'arrête pas forcément que à la musique. C'est vraiment... On fait des journées d'éducation, de sensibilisation sur tel ou tel sujet. Je sais qu'en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup les femmes, c'est pas très facile pour elles à certains niveaux, tu vois. Il y a des sujets très graves comme l'excision encore en Afrique de l'Ouest, dans mon pays aussi. Donc, c'est des trucs que j'aimerais mettre sur la table à travers un festival annuel que j'organiserai de toutes mes forces avec l'aide de quiconque qui veut m'aider. Notamment là, on essaye avec mon équipe de gérer, à rencontrer un peu les dirigeants du pays pour pouvoir vraiment faire un truc. En fait, leur rendre ce qu'ils m'ont donné. Je veux rendre ce que toute la Guinée m'a donné, je veux leur rendre.
Merci, Black. Sincèrement.
Merci à
toi. Tu fais du bien, frérot. T'es solaire.
Merci.
T'es transparent, t'es bienveillant, frérot.
Merci à toi.
Et moi, en tout cas, je suis vraiment ravi de t'avoir reçu.
Je te remercie.
Et là, je parle au nom de toute l'équipe. Hein.
Je te remercie. Ben, moi, je peux parler au nom de tous ceux qui suivent We Hustle. Franchement, l'interview, nickel. D'habitude, je regarde à travers ma caméra. Là, je suis en face de toi. Je kiffe de fou. Je t'ai fait écouter mes gars tout à l'heure qui te disaient qu'ils te kiffent. Franchement, ne lâche rien. Continue. La démarche, elle est très saine. Toutes les interviews sont très propres. Force à toi, mon frérot. Merci, mon gars. Sûr. On est ensemble.
Tu le sais bien, mon frère.
Merci. Ça y est, maintenant, on est ensemble. C'est bon.
C'était le Tchère.
Yes.
Avec l'homme que l'on nomme Black M. Black Shady pour We Hustle. Mes paroles valent Tchère. Peace.
We hustle, baby.